Info Matin, Nicolas Legrand.
Emmanuel Macron n'a qu'une ligne rouge, que la Nouvelle-Calédonie reste dans la République. Une déclaration de Sonia Backès lors d'une réunion publique hier soir à l'Arène du Sud. Un millier de militants étaient réunis après l'annonce du sommet de Paris sur la Nouvelle-Calédonie. Le décès d'une figure de la brousse et du RPCR, France Debien, dit Poupoune Debien, s'est éteint hier. Il avait notamment été élu à la province Nord et au Congrès. L'actualité à l'étranger, Donald Trump affirme que les sites nucléaires iraniens sont totalement détruits à la tribune d'un sommet de l'OTAN. Même Téhéran reconnaît des dégâts considérables, mais il faudra encore patienter pour le bilan réel des frappes américaines. À Tel Aviv, la vie reprend peu à peu, les habitants ont pu ressortir sans aucune restriction. Reportage dans ce journal. Le sport, France-Allemagne, c'est l'affiche de la demi-finale de l'Euro Espoir de football en Slovaquie. Après 30 minutes de jeu, ça se passe mal pour les Bleuets puisque le score est de 2-0 en faveur des Allemands. La météo, le soleil se fait plus timide en cours de journée. Les nuages porteurs d'averses persistent sur l'extrême sud, la façade est et au Loyauté. Quant aux températures maximales, elles sont en légère baisse, en particulier sur le sud de la Grande Terre, entre 25 et 27 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité politique.
Oui, ils sont soulagés que le président de la République reprenne la main dans le dossier calédonien. Les partisans de la France tenaient une réunion publique hier soir à l'Arène du Sud de Païta, à quelques heures seulement de leur départ pour Paris, où ils vont participer au sommet présidé par Emmanuel Macron à partir du 2 juillet. Je rappelle que le président de la République écrit dans une lettre d'invitation que les échanges dureront le temps nécessaire à ce que les sujets lourds que nous aurons à aborder puissent l'être avec tout le sérieux qu'ils méritent. Pour la chef de file des loyalistes Sonia Backès, la convocation de cette réunion est un soulagement après le cauchemar de Deva et elle a tenu à rassurer ceux qui doutent des engagements d'Emmanuel Macron.
Ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République, et il nous l'a dit à ceux qui l'ont vu, à Nicolas, à moi et à d'autres responsables politiques nationaux qui ne sont pas forcément ses alliés et qui nous ont dit clairement qu'il était sans ambiguïté sur le sujet, il a une ligne rouge absolue, c'est que la Nouvelle-Calédonie doit rester dans la République française.
Les discussions à Paris comprendront donc un volet institutionnel qui se tiendra sous la présidence d'Emmanuel Macron, assure Sonia Backès. Et elle relève aussi l'importance du volet économique et social qui portera sur la relance économique, le nickel ou encore le système de santé. Le membre du gouvernement, Christopher Gigès, est revenu sur quelques-uns des dossiers économiques qui seront examinés à Paris. Quant à Gilles Brial, il a pour sa part expliqué à la tribune le projet porté par Manuel Valls. Et pour lui, le projet Valls, c'est l'indépendance et c'est une trahison.
À Deva, l'État, il était à côté des indépendantistes. L'État de Valls, hein, je ne vous parle pas de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Donc on avait les indépendantistes et Valls en face de nous. Donc à Deva, on lui a mis une première flèche dans les côtes. Le projet, il est comme ça. Et la première des choses qu'on va devoir faire à Paris, c'est l'achever pour qu'on enterre définitivement ce projet et qu'on parte réellement d'un nouveau projet.
Depuis Paris et par visioconférence, Virginie Rufnac a appelé à la confiance et elle a insisté sur l'importance du lobbying et de la détermination pour s'opposer au projet du ministre des Outre-mer. Pour le député Nicolas Metzdorf, le sommet qui va se tenir à Paris est un moment crucial et il a indiqué les messages que les partisans de la France vont porter à Paris.
La première chose déjà, c'est de rappeler à Paris constamment, régulièrement, qu'on n'oublie pas et on pardonne pas le 13 mai. C'est pas une question de revanche, c'est pas une question de colère, c'est pas une question d'aigreur. C'est on ne peut pas soigner quelque chose si on ne fait pas le bon constat. On ne peut pas réparer quelque chose si on ne sait pas ce qui est cassé. Et considérer que parce qu'on fait des discussions, parce qu'on fait des négociations, on est au même niveau entre ceux qui cassent et ceux qui réparent, ceux qui haïssent et ceux qui aiment, ceux qui construisent et ceux qui détruisent, ça n'est pas possible.
Le projet nouveau ne peut être que dans la France et on va aller chercher le bon accord, celui d'une Calédonie française et prospère, ont affirmé tous les orateurs des loyalistes et du Rassemblement qui ont aussi souligné leur parfaite unité. Un rendez-vous indispensable avant des rendez-vous importants, souligne Sonia Backès.
C'est important pour nous de toujours, avant chaque séquence, après chaque séquence, informer les gens, avoir des échanges avec eux, savoir ce qu'ils ressentent. Parce que c'est eux qui nous portent, c'est eux qui nous permettent d'être forts dans les discussions. Et donc, on continue à le faire à chaque fois, dans des endroits différents, de manière à ce que les Calédoniens aient l'info. Je pense que la période, elle est cruciale. Ce qui va s'ouvrir maintenant, c'est fondamental. Le président de la République, il n'y a personne au-dessus. Donc ce moment, il est essentiel et c'était important que les Calédoniens sachent ce qu'on a à dire.
Une réunion publique à laquelle assistaient un millier de militants, des loyalistes et du Rassemblement. Il avait été ouvert par le président du Rassemblement, Alcide Ponga. C'est donc officiel depuis hier. Le sommet sur la Nouvelle-Calédonie s'ouvrira le 2 juillet, c'est-à-dire mercredi prochain. Le président de la République souhaite associer à ce sommet l'ensemble des acteurs du territoire pour qu'au-delà des sujets institutionnels qui sont majeurs, écrit-il, les échanges portent aussi sur les enjeux économiques et sociétaux. D'une manière générale, les acteurs de la Nouvelle-Calédonie se félicitent de cette annonce. Vous avez pu entendre plusieurs réactions des responsables des groupes politiques dans nos précédentes éditions, alors que le FLNKS doit quant à lui acter officiellement sa participation à ce sommet samedi lors d'une convention réunie à Puebo. Les maires participeront également à ce sommet et les représentants du monde économique ont aussi été invités à participer à ce sommet. C'est donc une étape importante, explique David Guyenne, le président de la CCI, membre d'NCECO.
Ce qu'on attend, c'est évidemment qu'il y ait un accord économique qui va donner un cadre d'abord de la reconstruction et de la survie de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, mais à plus long terme qui va assurer une pérennité d'un modèle économique soutenable, donc à travers des réformes, à travers un soutien de filières importantes hein, comme le nickel, comme l'énergie, à travers le développement de secteurs nouveaux, tout ce qui va permettre à la Nouvelle-Calédonie d'être forte économiquement et qu'on s'occupe enfin de la prospérité de la Nouvelle-Calédonie et des entreprises calédoniennes.
Et les participants à ce sommet vont maintenant quitter la Nouvelle-Calédonie dans les prochaines heures ou les prochains jours pour être présents à Paris dès le 2 juillet, jour de l'ouverture des travaux sous la présidence d'Emmanuel Macron.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Le sommet sur la Nouvelle-Calédonie, convoqué à Paris par le président de la République à partir du 2 juillet, sera-t-il, selon vous, déterminant pour l'avenir ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, 67% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils trouvent utile de développer un service de type Uber en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 33% à penser que ce type de service n'est pas utile. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour.
Radio Rythme Bleu, 6h38.
Nous vous annoncions hier soir le décès de France Debien, une véritable figure de la brousse et du RPCR, plus connu sous le surnom de Poupoune Debien. Il a notamment été élu en province Nord et au Congrès de 1999 à 2009 et il avait siégé dans le conseil municipal de Vaud. L'annonce de son décès a attristé la réunion des partisans de la France qui se déroulait à l'Arène du Sud. Avant les discours, le président du Rassemblement, Alcide Ponga, a fait observer une minute de silence à la mémoire de cette personnalité du Nord à qui il a tenu à rendre hommage.
Poupoune, c'était un fervent fidèle de Jacques Lafleur à l'époque, des vieux, à l'époque des anciens, à l'époque où il fallait se tenir debout, à l'époque où la Calédonie, elle tanguait et où ça brûlait, où ça cassait, surtout dans le Nord, en 84, en 88 et tout ça. Et il a continué le cheminement en tant qu'élu dans la province Nord, en étant à la commune de Vaud. Il a toujours défendu, on va dire, la Calédonie française. Et Poupoune, c'était quelqu'un aussi qui parlait souvent de l'unité.
Poupoune Debien, une personnalité de la brousse dont le timbre de voix très rocailleux était très reconnaissable. Harold Martin l'a très bien connu et il salue le défenseur de la Calédonie dans la France.
Poupoune, parce qu'on l'a toujours appelé Poupoune, ben c'était une figure du Nord qui a toujours et toujours, avec ce beau prénom qu'il avait, défendu la France. Pour Poupoune, la Calédonie devait être dans la France et nulle part ailleurs. Alors il y a ceux qui parlent, puis il y a ceux qui font. Poupoune a été un de ceux dans le Nord qui a fait beaucoup. Dans le Nord, il a toujours été respecté par tout le monde, y compris par les indépendantistes, parce qu'il a toujours été clair sur ses positions, sur ses convictions. Il n'a jamais eu peur de réaffirmer en toutes les situations. Et dans les années très difficiles, de 84, 85, de 88, il était là. Et ses actions, ses propres actions courageuses, difficiles, avec ceux du Nord à l'époque. Évidemment, j'oublie pas Éric Babin, qui est décédé lui aussi malheureusement, et aussi Robert Foin, le maire de Comac de l'époque. Ben, ils n'ont pas eu peur d'être sur le terrain et d'imposer ce qui nous a permis ensuite d'arriver à des accords comme ceux de 88. Il faut être très reconnaissant.
Poupoune Debien a été une figure de la résistance dans les années des événements. C'est aussi ce que retient de lui le député Nicolas Metzdorf.
J'ai appris la disparition de Poupoune avec une grande tristesse parce que quand on est un enfant de brousse, on connaît Poupoune depuis notre plus jeune âge. Je me souviens des réunions du Rassemblement, du RPCR même, avec Poupoune Debien qui prenait la parole avec cette voix si particulière. Il avait la voix de la terre, il avait la voix des convictions, il avait la voix du courage. Et il va nous manquer, il va me manquer. C'était un monument des non-indépendantistes du Nord, mais plus globalement des Calédoniens de brousse. Et ça fait toujours du mal de voir que des figures comme ça disparaissent. Alès. Je veux bien sûr avoir une pensée pour sa famille, ses amis, ils étaient nombreux, et leur dire que Poupoun a un héritage et qu'on essaye de tenir modestement le flambeau, mais je doute qu'on arrive à sa cheville parce qu'il a tenu des années en province nord et c'est une grande source d'inspiration pour nous, pour moi. Donc ouais, je suis vraiment, vraiment très touché par sa disparition.
Des témoignages recueillis après l'annonce du décès hier de France de Bien, dit Poupoun de Bien. À sa famille et à ses proches, Radio Rythme Bleu tient à adresser ses plus sincères condoléances. Et enfin, c'est aujourd'hui un anniversaire, celui de la signature des accords de Matignon et de la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, qui reste une référence. L'accord de Matignon a en effet été signé à Paris il y a 37 ans, le 26 juin 1988, entre une délégation RPCR dirigée par le député Jacques Lafleur et une délégation FLNKS menée par Jean-Marie Tjibaou sous l'égide du Premier ministre de l'époque, Michel Rocard. La signature des accords de Matignon a mis fin à la période dite des événements. Elle a eu lieu quelques semaines seulement après la fin de la prise d'otage d'Ouvéa. Et avant de refermer cette page, vos rendez-vous d'antenne sur Radio Rythme Bleu. Le nouveau procureur général a pris ses fonctions cette semaine. Arrivé sur le territoire la semaine dernière, Camille Miansoni débute son mandat après la cour d'appel de Nouméa. Alors quel est son parcours et comment envisage-t-il de mener sa fonction en Nouvelle-Calédonie ? Camille Miansoni, nouveau procureur général, sera notre invité tout à l'heure à 7h30. Et puis, dans l'actualité économique, dans un marché de l'emploi bouleversé et mis à mal par les émeutes de mai 2024, de nombreux Calédoniens se posent ou se sont posé la question d'une reconversion professionnelle. Alors, est-ce une réelle opportunité ? Vers qui se tourner ? Existe-t-il des accompagnements ? Est-ce aussi une opportunité pour créer sa propre activité ? Ces questions seront ce midi au cœur des Jeudis de l'économie. Jean-François Bodin recevra Benoît Dunoguès, qui est responsable du département gestion des entreprises à la CCI, Marie Benzaglou, directrice de la direction de l'emploi et du logement à la province sud, Nathalie Lemagne, formatrice sur les ateliers de formation, Rebecca Frola-Mignana, qui est directrice de Envie, et Elias Bonneau, qui est un jeune de 25 ans qui bénéficie d'un programme d'accompagnement personnalisé. Il est 6h passé de 43 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une première pause dans ce journal et ensuite, eh bien, on va voir la suite de l'actualité sur le territoire avec notamment le conseil municipal du Mont-d'Or qui était réuni hier pour approuver le compte administratif 2024 de la commune.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Nouveau stock de deck cohue chez Allwoods, de 1,80 m à 5,70 m. Et jusqu'au 30 juin, profitez des Happy Weekends. Moins 15% pour les particuliers, du vendredi 13h au samedi 11h30. Allwoods, 22 rue Descartes à Ducos ou sur Facebook.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
L'actualité institutionnelle et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a adopté un projet de loi du pays et un projet de délibération du Congrès visant à instaurer un dispositif exceptionnel de soutien à l'emploi, Léo Fichou.
L'allocation de chômage partiel exaction prendra fin le 30 juin prochain, mais l'exécutif a souhaité poursuivre l'accompagnement des Calédoniens ayant perdu leur travail. Il veut aussi continuer d'aider les entreprises aujourd'hui en difficulté pour garder leurs salariés. Parmi les mesures, une allocation de maintien dans l'emploi et des dispositions favorisant le retour à l'emploi des demandeurs par la réduction dégressive des cotisations patronales. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie, du travail et de l'emploi.
Le chômage partiel exaction donc qui s'arrête au 30 juin et donc on avait besoin d'avoir un dispositif qui vient prendre le relais sur ce sujet, donc un dispositif qui était passé déjà une première fois en séance du gouvernement, qui revient au Conseil d'État et qui est un dispositif, un, qui vient aider au maintien à l'emploi avec une allocation spécifique sur ce sujet, mais qui vient aider aussi au retour à l'emploi avec une exonération de charges patronales pour les entreprises qui souhaitent réembaucher, et il y en a aujourd'hui. L'allocation, ça permet au niveau du SMG d'avoir une allocation au bénéfice de l'entreprise pour maintenir les compétences au sein de l'entreprise. Des entreprises qui sont en difficulté et donc qui ont cette allocation. Les partenaires sociaux, dans le cadre de l'accord qu'on a pu signer dans le cadre de la conférence fiscale, économique et sociale, ont souhaité aussi qu'on accompagne le retour à l'emploi, donc avec un dispositif d'allègement du coût du travail, et on travaille encore avec les partenaires sociaux sur un dispositif de reconversion, parce qu'on a des personnes qui sont sur des secteurs d'activité où il n'y a plus de travail, et donc on souhaite les accompagner à la fois soit vers du salariat, soit vers de l'entrepreneuriat. On fait tout ce qu'on peut aujourd'hui pour que l'activité reprenne, pour que le BTP reprenne avec la reprise de travaux, avec des mesures qu'on reprendra encore de manière un peu plus incitative pour que l'emploi soit recréé en Nouvelle-Calédonie. Le but, c'est que cette allocation diminue massivement.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a aussi arrêté un projet de loi du pays relative à la suspension exceptionnelle et temporaire des avancements d'échelon, de grade ou de classe pour les agents de la fonction publique territoriale. Il a encore arrêté un projet de délibération relative à la mise à jour du plan stratégique pour l'économie numérique, ainsi qu'un projet de délibération pour actualiser la stratégie pays de l'innovation. Notez encore que le membre du gouvernement en charge du numérique, Christopher Gigès, a demandé à l'OPT, en se basant sur les recommandations de l'autorité de la concurrence, que la prime ligne fixe dans les abonnements Internet des Calédoniens soit supprimée, dans le cas où les abonnés n'ont pas de téléphone fixe, mais besoin d'un abonnement pour avoir accès à Internet.
Au Congrès maintenant, deux projets de loi du pays étaient inscrits à l'ordre du jour hier. Un seul a été adopté. Il s'agit du texte qui fixe le poids de chaque organisation patronale, à l'image de ce qui existe depuis plusieurs années maintenant pour les organisations syndicales. Cela permettra notamment une représentation plus conforme de chaque organisation patronale dans les organismes publics comme la CAFAT ou encore le Conseil du dialogue social. L'autre texte contenant un certain nombre de mesures pour la sauvegarde économique et la reconstruction a été reporté après l'adoption d'une motion préjudicielle qui doit permettre de trouver une certaine unanimité des groupes politiques avant son examen. J'ajoute qu'une nouvelle séance publique est programmée ce matin pour étudier deux textes en seconde lecture, l'un sur la création d'une taxe pour la promotion et le développement du tourisme et l'autre sur le domaine de l'eau partagée en Nouvelle-Calédonie. L'actualité institutionnelle toujours et les élus du Mont d'Or qui étaient réunis hier soir pour voter leur compte administratif 2024, soit le bilan financier de la commune pour l'année écoulée. La séance s'est déroulée sans débat et le compte administratif a été voté à la majorité, Léo Fichou.
Sans surprise, le résultat de l'exercice 2024 est dégradé avec une baisse globale de près de 25% des recettes de la collectivité, soit environ 500 millions de francs. Mais la commune a finalement réussi à dégager un excédent de 334 millions de francs sur l'année 2024. Dans le détail, le budget consolidé en fonctionnement est de 431 millions de francs, soit supérieur de près de 17 millions par rapport à 2023. Et le budget consolidé en investissement est déficitaire, lui, de 96 500 000, contre un résultat négatif de 248 millions en 2023. Des résultats qui traduisent une gestion prudente, selon Jean-Jacques Afchin, président premier adjoint au maire.
Le compte administratif 2024, il traduit quand même la difficulté que la ville a eue en 2024, notamment en matière de trésorerie, puisque tout le monde le sait que, comme toutes les collectivités, nous étions en rupture de trésorerie. À un moment donné, on était même à se demander si on allait pouvoir payer le personnel. En plus de ça, les banques, enfin les prêteurs, nous imposaient des mesures pour diminuer les charges de fonctionnement, les charges de personnel. Tous ces efforts, ils ont été faits et ça se traduit dans le compte administratif. Et en fin de compte, grâce à la subvention de l'État en fin d'année, on peut dégager un compte administratif positif. Et j'estime, moi qui suis en charge des finances, que c'est une année qui a été bien gérée malgré la crise.
Un excédent de 334 millions de francs obtenu non sans effort de la commune. Des économies ont été faites, majoritairement sur les investissements, mais aussi les charges à caractère général, les charges de personnel ou encore les subventions accordées. La municipalité a également réussi à négocier un report de crédit sans charge trop élevée, ce qui permet au final d'affecter les résultats de l'exercice 2024 sur la section investissement du budget 2025.
On a fait des efforts donc sur le fonctionnement, sur le personnel, mais aussi sur l'investissement. On a été obligé de réorienter nos choix puisqu'on n'avait pas les finances pour financer les travaux. Donc ce sont des investissements qui ont été reportés sur le budget 2025 avec les crédits nécessaires aussi. Les principaux investissements, oui, c'est l'agrandissement du cimetière de Plume. Ce sont les études pour le futur centre de secours et d'incendie à la Coulée. Différentes AEP, notamment la Coulée, la fin du renforcement de l'AEP de Plume. C'est les principaux.
Le vote du compte administratif 2024 a été adopté à la majorité, donc avec une abstention du groupe FLNKS et nationaliste. Une décision modificative du budget sera votée lors du prochain conseil municipal, ce sera le 23 juillet prochain. Autre point à l'ordre du jour de ce conseil municipal, le renouvellement du contrat de délégation de services publics d'électricité pour 15 ans à EEC ou encore l'attribution de subventions à diverses associations de la commune. Des subventions en baisse mais qui devraient être complétées dans l'année par l'apport de nouveaux financements que l'équipe municipale attend.
Radio Rythme Bleu, il est 6h50.
L'incendie à Pointe-Boute, au centre d'enfouissement des déchets, est complètement maîtrisé. Les pompiers du Civom VKP ont terminé de traiter les dernières fumées hier après-midi. Ils étaient mobilisés depuis mardi soir sur ce feu, très probablement d'origine criminelle. Et à Païta, c'est l'ancienne maison du gardien du stade de la commune qui a été le théâtre d'un départ de feu mardi vers 20h. La maison était abandonnée, un incendie qui a rapidement été éteint par les sapeurs-pompiers. Une enquête a été ouverte. Et puis, que devient le Koku, ce navire sous pavillon tanzanien qui est immobilisé au port autonome de Nouméa depuis le 8 février dernier, après avoir été arraisonné par les douanes de Nouvelle-Calédonie pour contrebande de tabac? Eh bien, le Haut-Commissariat a fait hier un point sur la suite de cette affaire, Jean-François Bodin.
Après son arraisonnement, les affaires maritimes ont prononcé l'immobilisation du navire pour de graves défauts techniques et documentaires en matière de sécurité qui mettaient en péril l'équipage et l'environnement marin du bateau. Depuis, l'État s'est mobilisé pour gérer le statut administratif de l'équipage et les demandes de soins et l'approvisionnement en vivres. Il souhaite aussi la libération du quai sur lequel le navire est immobilisé et a demandé à l'armateur de répondre aux injonctions prononcées en matière de sécurité. Sans réponse de l'armateur ni des autorités du pavillon tanzanien sur la régularisation de la situation du navire, l'État est en mesure depuis le 12 juin dernier de se substituer pleinement à la gestion du navire abandonné. Il s'est aussi mobilisé pour rapatrier les marins toujours à bord dans leur pays d'origine, alors qu'ils se trouvent dans une situation dramatique. Une action menée dans le respect des procédures internationales. Samedi 21 juin, 6 ressortissants chinois ont ainsi pu quitter le territoire et retrouver leurs proches. Les démarches se poursuivent pour le rapatriement des 7 marins birmans qui sont toujours à bord du navire, indique le Haut-Commissariat.
En bref, le Betty Cho part en carénage aujourd'hui et jusqu'au 10 juillet inclus. Pendant cette période, le navire sera donc hors service et aucune rotation ne sera assurée. Les traversées doivent reprendre dès le 11 juillet. Ils sont venus nombreux hier soir pour fêter les 171 ans de la ville de Nouméa. Et le clou du spectacle Léo Fichou, ça a évidemment été le lancement des milliers de lanternes célestes.
Elles ont illuminé le ciel au-dessus du terrain municipal de Magenta pour un moment magique partagé en famille ou entre amis. De la musique, des animations gratuites, des châteaux gonflables et des stands gourmands complétaient la fête. Et comme vous le disiez, beaucoup sont venus admirer le spectacle ensemble.
Profiter de l'événement, voir beaucoup de gens, partager du plaisir, voir les lanternes qui s'élèvent dans le ciel et voilà quoi.
Je suis venu profiter avec ma famille à regarder les lanternes, partager un petit moment ensemble. C'est la famille qui m'ont poussé à venir. Hein. De base, moi, j'avais pas l'idée à venir. Je savais même pas qu'il y avait aujourd'hui. Du coup, je suis content quand même d'être là.
Je viens de rentrer au pays là. Je suis en train de retrouver mes racines et ça me fait vraiment plaisir d'être ici et de célébrer ça avec des lanternes. Avec l'éclairage, c'est parfait.
C'est féerique quand tout s'envole. C'est merveilleux. Puis quand on arrive à faire la sienne, vous voyez, c'est joli, c'est beau. Et puis je crois que ça réunit pas mal de gens, des jeunes, des moins jeunes. C'est bien, c'est une bonne initiative.
Un anniversaire célébré dans la bonne humeur qui confirme le succès populaire de ce rendez-vous devenu incontournable.
Merci Léo Fichou. 6h53, on marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité. Actualité à l'étranger avec notamment ce cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. La vie peut reprendre petit à petit à Tel Aviv.
RRB, 6h08, Nicolas Legrand.
Besoin de vacances? Envolez-vous avec le cabinet d'assurance AssurePac. Gagnez un séjour pour deux au Vanuatu, vol aller-retour plus 3 nuits avec petit déjeuner. Pour jouer, rendez-vous dans l'une de nos 3 agences avant le 30 juillet, BD Pêcheur, Pacific Arcade ou VKP. Et ce n'est pas tout, repartez aussi avec une remise sur votre prochain contrat d'assurance. Alors, prêt à tenter votre chance? Plus d'infos Facebook, AssurePac NC.
Retrouvez-nous le jeudi 3 juillet à 18h à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour le ciné-débat « Empreinte océan sur les tortues marines ». Découvrez l'engagement passionné des scientifiques et des communautés locales qui travaillent ensemble pour protéger ces créatures emblématiques et pour préserver leurs précieux sites de ponte. Venez assister à la projection de l'émission « Empreinte océan » et posez vos questions en direct aux experts et scientifiques. Ouvert à tous et gratuit. Alors rendez-vous le jeudi 3 juillet à 18h à l'UNC à Nouméa.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Excellent début de journée, la suite d'Info Matin avec l'actualité dans le monde. On retrouve Nicolas Legrand.
L'actualité à l'étranger, les installations nucléaires de l'Iran ont été considérablement endommagées. Déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères après les bombardements de ces derniers jours. Des propos qui vont plutôt dans le sens de Donald Trump qui a été jusqu'à dire qu'il y avait eu une destruction totale des sites nucléaires iraniens. Et il estime d'ailleurs que le programme nucléaire de Téhéran a été retardé de plusieurs décennies. Le président américain qui va jusqu'à parler de fake news quand les journaux affirment le contraire. CNN et le New York Times qui citent un rapport des services de renseignement américains. Selon ces deux médias, les frappes américaines ont simplement retardé de quelques mois le programme nucléaire iranien car les installations auraient été épargnées. En réalité, il faudra attendre plusieurs semaines avant de connaître la réalité des dégâts, William Molinier.
Oui, même si l'Iran reconnaît ce soir des dommages importants sur plusieurs sites, la nature des destructions reste inconnue. Pourquoi ? Eh bien parce que la majeure partie du programme nucléaire se trouve enterrée. Or, sur les images satellites des frappes, on ne voit pas l'intérieur des galeries. Impossible donc de savoir vraiment où se trouvent les 400 kilos d'uranium enrichi. Mais Donald Trump, lui, en est persuadé. Ils ont bien été détruits. Et c'est ce qu'il a affirmé aujourd'hui lors du sommet de l'OTAN aux Pays-Bas. Nous avons détruit leur nucléaire, complètement détruit même. Je l'ai déjà dit, l'Iran n'aura pas de nucléaire, nous l'avons fait exploser, il n'existe plus. Et grâce à cette incroyable démonstration de force, nous avons ouvert la voie à la paix. En réalité, le vrai bilan sera connu dans plusieurs semaines, le temps que le Mossad, le service de renseignement israélien, récupère des informations fiables auprès de ses agents infiltrés à Téhéran. Alors quid des archives du programme nucléaire iranien qui ont sans doute été dispersées un peu partout dans le pays ? En fait, une nouvelle guerre de l'ombre va s'ouvrir. Les Iraniens savent qu'ils sont écoutés, surveillés. Ils vont sans doute tenter d'intoxiquer la communauté internationale tout en reconstituant à bas bruit leur chantier nucléaire. Et cette fois-ci, dans une parfaite clandestinité.
William Molinier pour Europe 1 à Tel Aviv. La vie reprend donc peu à peu après la mise en place de ce cessez-le-feu. La plupart des consignes de sécurité ont été levées. Les écoles ont pu également rouvrir. Les habitants se sont notamment précipités sur les plages après la levée des restrictions. Mais la prudence reste évidemment de mise.
C'est d'abord pour les enfants que l'on essaie de revenir à la normale. Mais c'est une transition très difficile parce qu'hier encore, des missiles s'abattaient sur Tel Aviv. Et soudain, ça y est, c'est le retour à la vie, au travail, au quotidien.
C'est la première fois où j'ai fait une nuit complète. Et que mieux que ça, parce que ce qui est le plus angoissant, c'est toujours d'être à suivre sur les réseaux, l'évolution. Attention, il va y avoir un missile. Hier, j'ai mis le téléphone de côté. Je n'ai pas regardé une seule fois le téléphone et les annonces.
En fait, on est un peu dans le déni parce qu'on ne comprend pas comment hier, on était en confinement. Et aujourd'hui, on est complètement libre. C'est un peu spécial. Mais après, je n'ai pas du tout peur de sortir dans la rue. Je sais qu'il n'y aura pas de roquettes. C'est-à-dire qu'ils ne prennent aucun risque pour nous. Ça, c'est évident.
Et j'ajoute qu'un débat sur cette guerre était organisé ce matin pour nous à l'Assemblée nationale après un discours de François Bayrou. Le Premier ministre qui, par ailleurs, donnera une conférence de presse demain matin à Matignon pour tirer les conclusions de ses échanges avec les organisations syndicales et patronales lors du conclave sur les retraites. Et selon un sondage Elab pour BFM TV, 52% des Français souhaitent que le gouvernement Bayrou soit censuré. Il est 6h58, une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive en compagnie de Léo Fichou.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Conné.
Chez Maison Thierrier, le duo moule frites est de retour. Pour l'achat d'un kilo de moule, profitez du kilo de frites pour 100 francs de plus, soit le tout à 1090 francs seulement. Offre valable jusqu'au 31 juillet dans vos 4 magasins à Pogoti, Magenta, Faubourg et Vata. Maison Thierrier, goûtez, ça change du surgelé.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Info matin, l'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et tout d'abord du football avec les demi-finales de l'Euro Espoir, l'Euro des moins de 21 ans ce matin, Léo Fichou.
Oui, et l'équipe de France, les Bleus, sont opposés depuis 6 heures à l'Allemagne. Un choc entre deux des meilleures nations de la planète foot des moins de 21 ans. Et à la mi-temps, malheureusement, les Bleus sont menés 2-0 par les Allemands. Le vainqueur de cette rencontre affrontera l'Angleterre. En finale, les Anglais ont battu cette nuit les Pays-Bas. Une victoire 2-1 grâce à un doublé d'Harvey Elliott, joueur de Liverpool.
Double actualité en basket ce matin, on parle de l'Euro là aussi, chez les dames et chez les hommes.
Les féminines d'abord de l'équipe de France sont en demi-finale de l'Euro, elles ont battu la Lituanie, c'était hier, sur le score de 83-61. Et depuis ce matin, elles connaissent leur adversaire dans le dernier carré, ce sera l'Espagne. Les Espagnoles tombeuses de la République tchèque, 88-81. Demi-finale prévue à 3h dans la nuit de demain à samedi. Les hommes, eux, débutent leur Euro le 27 août, c'est dans 2 mois. Et malheureusement, ils devront faire sans Victor Wembanyama suite à une thrombose veineuse à l'épaule. Le pivot des Spurs de San Antonio ne fera pas partie de la liste qui sera publiée la semaine prochaine. Un coup dur de plus pour l'équipe de France après le forfait de Rudy Gobert.
Et enfin, l'actualité sportive en Nouvelle-Calédonie avec deux nouveaux jeunes rugbymen qui vont rejoindre le centre de formation de la section paloise. C'est la suite du partenariat établi entre Pau et l'URC d'Imbéa. Ilesio Touala et Maïwen Lutuva sont âgés de 16 ans. Ils ont signé leur convention hier en présence de Lucas Brotto, le directeur du centre de formation de la section paloise.
Je pense que c'était important de marquer le coup et d'être présent sur cette période qui est charnière pour les jeunes, qui est charnière pour les familles aussi, parce que c'est évidemment le projet d'un garçon, mais je pense plus largement c'est le projet d'une famille, de laisser partir son enfant, de faire confiance au club. C'est la cinquième fois que je viens depuis moins d'un an et demi, donc je commence à connaître un petit peu le territoire. Le territoire est évidemment un générateur de potentiel, d'énormes potentiels. Aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais effectivement, il y a des joueurs issus du territoire qui sont des top joueurs mondiaux à leur poste. Il faut être très très clair là-dessus. Nous, on est dans une autre démarche, on est dans une démarche de formation, on est dans une démarche de développement. C'est clairement une succursale de la section paloise qui est basée ici en Nouvelle-Calédonie et qui est inscrite ici en Nouvelle-Calédonie. C'est des liens qui vont d'un sens comme dans l'autre.
Ilesio Touala et Maïwen Latouva ont donc signé hier leur engagement. Autre point clé dans ce partenariat entre le club de Dimbéa et la section paloise, un jeune coach calédonien va aussi suivre prochainement une formation d'entraîneur à Pau.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin, un large soleil se maintiendra sur le nord alors que les nuages domineront ailleurs, donnant quelques averses sur la façade est au Loyauté et sur la pointe sud. Le vent orienté est-nord-est s'est établi autour des 10 nœuds pour ce matin. Il oscillera encore des 15 nœuds sur les Loyautés et l'extrême nord ainsi que le sud. La côte ouest restera généralement déventée. Cet après-midi, le soleil se fera plus timide. Les nuages porteurs d'averses persisteront sur l'extrême sud, la façade est et au Loyauté. D'autres nuages se développeront sur le relief puis déborderont vers le sud-ouest en apportant des averses isolées. Le vent cet après-midi est à sud-est autour des 10 nœuds, sauf sur le sud-ouest qui reste déventé toujours. Les températures comprises elles en général entre 25 et 27 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.